En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
On a eu un peu de mal à se mettre d'accord sur un titre. Finalement, le titre qui était résulté de notre échange d'email répété, ça devenait ça. Qui survit et comment survit-on à la guerre ? J'ai ajouté le sous-titre, exemple français pour le 19e et le 20e siècle. Mais ce titre-là, lui-même, m'a un petit peu embarrassé, je vous l'avoue. Et donc, je vais commencer par vous dire que mes réponses sont des simples banalités. Qui survit ? Ceux qui n'ont pas été tués. Comment survit-on ? En ne mourant pas. Et ce sont deux bonnes raisons de s'intéresser d'abord à ceux qui meurent à la guerre et comment ils en meurent. On pourra éventuellement, à contrario, savoir qui n'en meurt pas et comment on n'en meurt pas. Alors, comment on meurt d'une guerre ? Eh bien, on peut en mourir directement, mais là encore de différentes manières, soit au front, soit à cause des attaques ennemies, bien sûr, c'est le plus courant, mais aussi à cause de la dégradation des conditions de vie qui sont imposées aux gens qui font la guerre, ou bien même, quelquefois, à des exécutions, de gens qui font la guerre en traînant un peu les pieds. Et puis, on peut mourir à l'arrière. Alors là, ça peut être soit par les bombardements ennemis ou amis, d'ailleurs, c'est un peu indifférencié, ou bien, alors, encore par la dégradation des conditions de vie liées à la guerre, et puis d'autres choses, bien sûr. Mais on peut aussi mourir du fait de l'occupation de territoire occupé par l'ennemi, ce dont tu as suggéré qu'il serait peut-être intéressant de faire, mais là, je n'aurais pas grand-chose à vous dire, sauf peut-être pour la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu des morts pendant l'occupation allemande qui sont quand même liées à l'état de guerre, même si l'état de guerre n'existait plus officiellement. Mais aussi, on peut mourir d'une guerre indirectement, ou en tout cas, on se pose des questions là-dessus. Je ne suis pas sûr de vous apporter les réponses définitives. Parce qu'il se peut que la guerre sélectionne ou ne sélectionne pas les individus en fonction de leur santé, tout simplement. Et dans ce cas-là, il peut y avoir quelques répercussions tardives, mais en termes de démographie de la mort, mais aussi la guerre peut laisser en vie des gens diminués. Et il pourrait y avoir aussi des répercussions tardives. Voilà, donc c'est ça que je vais essayer de traiter avec vous. Qui meurt ? Alors, ça peut être des militaires, des civils, première distinction. Ça peut être des hommes ou des femmes, deuxième distinction, intéressante. Bien sûr, ça dépend beaucoup de l'âge. On pourrait aussi imaginer d'autres distinctions très intéressantes, comme par exemple la classe sociale, la nationalité, etc. J'arrête, parce que de toute façon, je ne vais pas traiter ces trois dernières catégories, entre parenthèses, parce que je n'en ai pas les moyens. Sur quoi je me base ? Alors, en fait, de travaux déjà faits, hein, essentiellement pour le XXe siècle, comme je le disais tout à l'heure en me présentant, c'est parce qu'au début de ma carrière, j'ai fait à l'INED une thèse d'ailleurs sur la mortalité par génération en France depuis 1899. Voilà. Et là, ça m'a obligé à reconstituer des tables de mortalité pour toute la période concernée, y compris les guerres. Alors, il faut se travailler avec des décès, bien sûr, enregistrement à l'état civil, archives des armées, etc., et aussi des travaux antérieurs, très importants, en l'occurrence, pour la Première Guerre mondiale, c'est le travail de Michel Hubert. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a moins de choses, mais il y a quand même des travaux faits par Henri Vincent. Et puis, il y a quand même des statistiques qui sont moins mauvaises que pendant la Première Guerre. La population, il faut connaître la population pour faire des taux de mortalité. Hein. Donc là, on a les sources classiques, c'est le recensement. Mais le recensement, ça ne suffit pas, parce que c'est de temps en temps qu'il y a un recensement. Il faut aussi des estimations intersensitaires annuelles. Et ça, l'INSEE en fait régulièrement depuis les années 50. Avant, la SGF n'en faisait pas. Pour le 19e siècle, c'est beaucoup plus difficile. Et là, on a une reconstitution que j'ai faite avec mon collègue France Mellet pour tout le 19e siècle, là encore avec l'idée de produire des tables de mortalité annuelles pour toute la période. Alors là, on a employé beaucoup de travaux de démographes historiens, de Paul Vincent aussi, Jacques Houdaï aussi, mais bon, je vous passe les détails parce que c'est une véritable cuisine démographique qui finalement a porté quelques fruits. Et pour l'ensemble, on a un petit ouvrage de l'INED qui a été publié, qui donne les tables de mortalité françaises pour le 19e et le 20e siècle, avec même une projection jusqu'à la fin du 21e siècle. Voilà. À partir de ça, on peut vous montrer cette courbe qui est celle des espérances de vie à la naissance, année par année, depuis 1806 jusqu'à maintenant. Et là, on voit des gros impacts d'un certain nombre de choses, dont la plupart ce sont des guerres. Mais pas toujours. Et une manière de voir que ce n'est pas toujours seulement l'effet de la guerre, c'est justement de distinguer le sexe, parce que les femmes, en général, pâtissent moins directement, pas qu'elles pâtissent pas du tout, mais moins directement de la guerre, et donc l'impact sur l'espérance de vie des femmes va être un peu moindre. Et on voit ici que dans toutes ces hachures, il y a des cas qui sont vraiment typiquement la guerre et seulement la guerre. Par exemple, les dernières campagnes de Napoléon, là, qui se trouvent ici. Mais il y en a d'autres où c'est beaucoup moins clair. Par exemple, 1832, 34, plutôt des émeutes, le choléra, la révolte des canuts. Après 1849, c'est juste le choléra. Après 1854-55, il y a la guerre de Crimée, certainement, mais il y a aussi encore des épidémies. Et puis, etc. Alors, 1870-71, ça c'est très intéressant aussi, parce que on voit là que les femmes sont touchées, presque autant que les hommes en relatif. Mais elles sont touchées, non pas par la guerre de 70, mais par la Commune de Paris, enfin le siège de Paris, les troubles de la Commune et la répression des communards. Et puis on arrive suite à la Grande Guerre. Et là encore, c'est pas seulement la guerre, parce que la dernière année de la Grande Guerre, 1918, et on le voit bien, les femmes sont très atteintes alors qu'elles sont pas atteintes par les premières années. C'est la grippe de 1918, tout simplement. Et puis il y a la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est plus complexe, parce qu'en fait, c'est presque tout la guerre. Mais au début, c'est simplement les hommes, parce que c'est la campagne militaire, 1940. Mais après, c'est quand même la résistance, la répression, les difficultés de vie, etc., qui affaiblissent l'espérance de vie. Et puis, tout d'un coup, un choc, la libération. Enfin, les bombardements alliés, en fait, qui ont frappé beaucoup les populations civiles, donc les femmes aussi. Et puis, le dernier effet de la libération, ça a été une grande surmortalité infantile, on va voir ça tout à l'heure, du fait de la désorganisation des circuits du lait, tout simplement. Alors, la surmortalité de guerre, c'est mon premier point. Ensuite, ça sera la survie, la survie des survivants. La surmortalité de guerre, on peut distinguer donc des effets de la guerre sur les conditions de survie du moment. Et je vous montre ici des choses qui vont ressembler petit à petit à ce que François Héran a commencé par vous montrer tout à l'heure. C'est une représentation de fonction de la table de mortalité de chaque année ou de chaque génération, comme on verra tout à l'heure. Ici, c'est des années. Et ici, on voit l'impact immédiat de la guerre sur la mortalité du moment, aux différents âges, parce que c'est les quotients de mortalité par âge que vous voyez ici. Et vous voyez, par exemple, pour les guerres napoléoniennes, les trois qu'on a sous la main, là, c'est typiquement différent pour les hommes et pour les femmes. Les hommes, il y a une énorme surmortalité aux âges où on fait la guerre. Les femmes, pratiquement, il n'y a pas de différence avec l'année de référence 1816, là. Sauf peut-être pour 1814, qui est la campagne de France. Hein, parce qu'ici, on a en 1812 la campagne de Russie, la campagne d'Allemagne, la campagne de France. Et évidemment, comme la campagne de France se trouve en France, ben, les femmes françaises sont un peu touchées par les conséquences indirectes, mais pas énormément. Et en tout cas, là, c'est vraiment une guerre qui tue essentiellement des hommes. Parlant des campagnes de Napoléon, je ne peux pas résister à vous montrer ce magnifique graphique que François Hébran m'a fait découvrir il n'y a pas tellement longtemps, de Charles Minard, et qui vous montre la grande armée, ce n'est pas la grande guerre, c'est la grande armée de Napoléon. Napoléon avait recruté 600 000 hommes, hein, et il en a amené 422 000, là, j'ai mis le chiffre 422 parce qu'on ne voit pas les chiffres, ils sont trop petits sur le graphique. 422 000, c'était le nombre d'hommes qu'il a amené pour faire la guerre à la Russie à Kaunas. Kaunas, c'est une ville qui s'appelle... Oui, là, il s'appelle pas Kaunas, Kaunas, qui se trouve en Lituanie maintenant. Oui, Kaunas. Et on voit progressivement ces 422 000 s'amenuiser avec le chemin.
Quoi. C'est l'épaisseur du trait est proportionnelle aux effectifs. C'est l'aspect génial de ce graphique.
Oui, l'épaisseur du trait est proportionnelle à l'effectif. Et là, les 422 000, ah ben tiens, il marche pas mon truc, ah, j'appuie pas sur le bon bouton, deviennent seulement 125 000 quand ils arrivent à Smolensk. Il n'y a pas eu beaucoup de batailles, hein. C'est beaucoup de désertions et tout ça qui sont arrivés en fait. Oui, puis ils en laissent dans les garnisons, oui, bien sûr. Et puis, ils sont plus que 100 000 à Moscou. Et quand ils reviennent de Moscou, ben, c'est difficile. Ils sont plus que 24 000 quand ils repassent par Smolensk. Là, un petit peu avant d'arriver à la Bérézina, ils regonflent un peu leurs effectifs parce qu'il y a des troupes qui avaient été laissées sur place qui reviennent. Donc, ils redeviennent 50 000, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Et après la Bérézina, c'est vraiment la Bérézina, quoi. Et quand ils arrivent à la fin, c'est 10 000.
La courbe du bas donne la température.
Oui, la température. Bon. Donc, bon, tout ça, c'est vraiment pour l'image que je vous le montre. C'est vraiment très intéressant à regarder, je crois. Et aussi, ça montre l'évanouissement d'une grande armée, parce que c'était peut-être la plus grande armée de tous les temps, hein, c'est pas ça. Hein. De 420 000, 600 000, on avait laissé quand même en France, 420 000 à 10 000. Bien sûr, pas toujours pour des raisons de décès.
Oui.
Là, nous avons maintenant des courbes de mortalité par âge, toujours, mais pour la guerre de 1870 et l'année 1871, qui est surtout le siège de Paris, la commune de Paris, tout ce qui s'ensuit. Et là, on voit encore qu'il y a une très grande différence entre les hommes et les femmes, hein, et en particulier aux âges où on fait la guerre, où on porte les armes, c'est quand même une très forte surmortalité des hommes. Mais à tous les âges, il y a aussi une assez forte surmortalité des femmes. Non seulement en 71, on comprend, parce que les femmes ont été très impliquées dans l'histoire de la Commune de Paris, mais aussi en 70. Et là, ça s'explique autrement, parce qu'elles n'ont pas fait la guerre, les femmes. Simplement, il y avait une épidémie de variole. 1914-18, et là, j'ai les grippes de 1918-19, bien sûr, parce qu'ici, on voit l'impact considérable sur la mortalité des hommes de 20 à plus de 60 ans, non pas tout à fait quand même, de 20 à 45 ans, disons, ou 50 ans, pendant cette guerre. Et chaque année, que vous voyez, 1914, 1915, 1916, que vous voyez toutes les courbes qui sont là par couleur, 1917, un peu moins, mais enfin quand même, toutes ces années-là ont tué énormément d'hommes, qu'on dirait aujourd'hui d'âge actif, mais d'hommes qui étaient actifs pour la guerre, et la guerre, on était actifs longtemps, dans cette grande guerre où on a mobilisé beaucoup de monde. 1918, plutôt, en noir, là, vous voyez, je pourrais peut-être mettre la flèche pour vous dire de temps en temps, non, je n'arrive pas. 1918, côté masculin, on a à peu près le même schéma que pour les autres années, sauf que vous voyez que pour les jeunes âges, il y a aussi une surmortalité importante. Et puis que du côté des femmes, on a une très forte surmortalité en 1918, et ça, c'est complètement la grippe. 1919, alors quand j'ai vu la cour pour les hommes la première fois, je me suis dit ça, c'est peut-être quand même des séquelles de la guerre, mais non, en fait, c'est essentiellement la grippe aussi qui a duré l'hiver 1918-19, quoi, et donc elle a fait aussi pas mal de morts pendant l'année 1919. Voilà pour la Première Guerre mondiale. Ah zut, excusez-moi, mais... Hop. 39-45, donc la Deuxième Guerre mondiale. Bon, 39, pas de mort. On n'a pas fait de guerre. On a fait semblant un petit peu, mais on n'a pas fait de guerre. 1940, alors là, on voit la grande différence entre les hommes et les femmes. Hein. Les hommes ont une surmortalité de guerre très importante. Les femmes, on ne voit rien. 1942, en vert, il n'y a plus grand-chose du côté des hommes, encore un peu quand même. Et du côté des femmes, il n'y a toujours rien. Par contre, 1943 et 1944, alors là, les hommes et les femmes sont durement frappés. En 1943, c'est les morts, essentiellement les morts dans la résistance et la répression des Allemands. Un peu aussi les conditions sanitaires un peu dégradées. Et 44, alors là, c'est vraiment les bombardements alliés. Donc nous sommes bombardés nous-mêmes, quoi, en quelque sorte. Et ça a fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Vous voyez, 44, pour les hommes, c'est autant que 40. Hein. Autant que 40. Mais ça touche tous les âges. Ça touche tous les âges et ça touche les deux sexes entièrement. Et puis 45 en rose, là, c'est un peu spécial, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une très forte surmortalité infantile liée à la désorganisation des circuits du lait. Il y a Henri qui avait fait un très bel article là-dessus. Oui, les circuits du lait étaient désorganisés et les nourrissons, dans l'été surtout de 1945, ont bu du lait, un peu dégradé, quoi. Hein. Donc, ils sont morts comme des mouches. Ensuite, on a les effets de la guerre, non plus sur les conditions de vie du moment, mais sur les générations. Et c'est là que vous allez revoir le graphique, un graphique similaire à celui qu'a montré tout à l'heure François Héran. Parce que, tout à l'heure, je vous ai montré le graphique sur l'évolution annuelle de l'espérance de vie sur les deux siècles. Là, il est repris ici en rouge. Mais vous avez en bleu et en vert. En bleu, c'est le même graphique, c'est-à-dire pour les hommes, mais avec l'espérance de vie de la génération, et non pas de l'année, hein, qui est indiquée en bas. Vous voyez. Et puis en vert, l'espérance de vie de la génération pour les femmes. Et là, on voit.
Oui. Chaque année, on peut calculer l'espérance de vie.
Oui, oui, bien sûr.
Instantanée, qui est en fait la synthèse de toutes les conditions de mortalité, toutes générations confondues. La probabilité de mourir de 0 à 1 an, de 1 à 2 ans, etc. Tout ceci concaténé comme dans une espèce de cohorte de synthèse. Mais c'est calculé dans l'année, pour l'année, en confondant toutes les générations.
Oui, c'est ce que j'ai dit, ça.
C'est le véritable bilan de la. Alors l'autre courbe, c'est le véritable bilan de la génération, bilan qu'on ne peut faire, qu'on ne peut terminer qu'une fois éteinte toute la génération en question, donc rétrospectivement. Et Jacques Vallin se trouve être la personne qui a publié les espérances de vie des générations rétrospectivement. Oui. Très peu de monde, parce que la plupart du temps, on se contente de publier l'espérance de vie instantanée parce qu'on en a besoin tout de suite, quoi. Tout de suite.
Non, c'est pas tout à fait pour ça. Non, c'est pas du tout. Je n'ai pas tout à fait la même interprétation que toi de cette différence entre les deux. Parce que les données du moment qui servent à faire la table de mortalité du moment et qui donnent cette courbe en rouge pour les hommes ici, ça pour objectif simplement le suivi de la conjoncture. Hein, c'est-à-dire qu'on voit d'année en année comment la mortalité, donc l'espérance de vie, évolue. Mais aussi, en termes d'espérance de vie, ben, on peut l'interpréter de la même façon. Mais la véritable mortalité, c'est celle des générations, évidemment. Et celle des générations, comme vous pouvez le constater ici, c'est plus difficile à observer parce qu'il faut 100 ans pour qu'une génération s'éteigne. Et donc, pour calculer sa table de mortalité, ben, il faut attendre 100 ans après sa naissance. Et c'est pourquoi vous avez là, en pointillé ici, la poursuite de la courbe pour les années les plus récentes, si on peut dire, enfin, les 100 dernières années à peu près. Bien sûr, au bout de 60 ans, on peut considérer que ça y est, on sait le résultat, parce que la mortalité aux très grands âges ne pèse plus aussi lourd que ça dans les tables de mortalité. Mais quand même, et alors, ces courbes en pointillé ici sont très solides quand on est au début, hein, encore assez solides quand on est à peu près par là, et quand on arrive ici, elles dépendent énormément de la façon dont on projette la mortalité. Et dans les projections de mortalité qui sont utilisées ici, c'est simplement une extrapolation de l'évolution des taux de mortalité ou des quotients de mortalité par âge observés dans les 10 dernières années. Avec ça, on continue la courbe. Voilà. Bon, mais ce qu'on voit ici surtout, c'est que la guerre, alors on va s'intéresser seulement maintenant aux deux principales guerres pour ce sujet-là, cette guerre 14-18, guerre 40-44, qui ont fait des entailles énormes dans l'espérance de vie du moment, n'ont pas eu un impact si grand que ça sur l'espérance de vie des générations. Bien sûr, c'est quand même fort, hein, mais c'est pas aussi grand et c'est pas aussi haché. C'est un petit peu dilué dans le temps et c'est beaucoup moins fort. Surtout pour la Deuxième Guerre mondiale, qu'on voit ici, il n'y a pas une grande trace. Voilà. Par contre, on voit aussi une petite trace ici, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la mortalité infantile de 1945.
1894.
Alors, 1894, j'ai marqué les années, là, 1894, c'est, avec 1895 d'ailleurs, si on peut préagiliter, c'est les deux générations qui ont payé les plus lourds tributs de morts de soldats à la guerre.
C'est la classe 14.
C'est la classe 14 et la classe 15.
La génération, c'est tous ceux qui sont nés la même année, c'est ça?
Oui. Oui.
Donc ils ont perdu plus de la moitié de leurs effectifs.
Et là, c'est 1916 ou 17, ça peut se discuter, hein. Mais c'est la génération qui a le plus contribué aux pertes de la guerre 40-44. Voilà. Alors maintenant, oui, je vais reprendre pour les deux principales guerres une comparaison. Ça rejoint ce que vous a montré tout à l'heure François Héran, mais là c'est toujours à partir des quotients de mortalité, c'est-à-dire la courbe de mortalité par âge, la différence entre justement une génération, celle qui a été la plus frappée par la guerre, là j'ai pris 94, j'aurais pu prendre 95, ce serait pas très différent, et l'année où la guerre a fait le plus de ravages, 1915. Eh bien, vous voyez la différence, elle est toute là. C'est-à-dire que la génération n'est frappée que pendant les 4 années de la guerre. Hein. Bien sûr, elle est frappée lourdement chaque année, hein, un peu moins la dernière, mais elle n'est pas frappée aux âges plus élevés, parce que la guerre est finie. Alors que pour les données du moment, la table de mortalité du moment, ben, on tient compte justement de tous ces quotients de mortalité du moment. Et donc, il y en a à tous les âges qui sont des quotients de surmortalité. La guerre 40, eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf que là, il y a deux pics, hein, pour la génération la plus... Moi, j'ai pris 17, là, mais pour la génération la plus touchée, il y a deux pics. Il y a la campagne 1940 et il y a
la fin de la guerre,
oui, les bombardements, etc. Et la différence entre la façon dont la génération 17 est touchée et dont les tables de mortalité du moment sont touchées est également très, très différente, comme pour la Première Guerre mondiale, avec ici une différence supplémentaire, c'est que pour la génération, pour l'année, excusez, j'ai fait une erreur, c'est 45 là, hein. Ah zut,
je me suis trompé.
Oui, c'est ça, là, il y a la mortalité infantile, voilà, c'est ça. Bon, enfin, j'ai fait une petite erreur sur le graphique pour l'étiquette de la courbe rouge, c'est 45. Voilà, donc, non, c'était dans l'autre sens. Et alors, pour la Deuxième Guerre mondiale, il faut regarder aussi les femmes, parce que c'est un peu la même chose pour les femmes, non pas pour toute la période, mais pour la période de guerre, de libération, hein, ici, de bombardement, voilà. Ça fait un pic chez les femmes dans cette génération-là. Maintenant, on pourrait regarder... il y avait encore la génération 45, voilà, là, je ne me suis pas trompé ce coup-ci, mais on voit ici que la différence entre génération et moment, finalement, il n'y en a pas en ce qui concerne la surmortalité, parce que la surmortalité, elle est toute infantile. Par contre, il y a une grande différence entre les générations et l'état du moment, que ce soit les hommes ou les femmes, du fait que la génération... Bien sûr, elle ne fait que naître en 1945. Donc elle va bénéficier pendant toute sa vie du progrès sanitaire qui va suivre. Alors que l'étape du moment de l'année 1945, évidemment, sont dans les conditions de l'année 1945 à tous les âges. Et là, c'est la grande différence entre génération et moment. OK. Alors maintenant, des effets de la guerre sur la survie des générations. Voilà. Ça, c'est la courbe que montrait François tout à l'heure. Non, c'est pour 1914-18. Je vous ai mis en encadrement l'année 2010, donc la table la plus récente, une des plus récentes disponibles. L'année 1806, là où commence notre étude. Voilà, c'est les survivants, donc la manière dont une cohorte fictive perd son effectif sous les coups de la mortalité ordinaire, puisque dans ces années-là, il n'y a pas de guerre. Hein. Donc, très très rapidement, au début, pour l'année 1806, et ensuite, alors là, la flèche, et ensuite, très lentement au début, hein, et donc, entre les deux, il y a un énorme écart qui est, en fait, l'image de tout le progrès sanitaire de la période de ces deux siècles. Alors, au milieu, là, vous avez une courbe qui apparaît en bleu pour l'année 1894, parce que sur ce graphique, je compare donc la plus mauvaise, la génération qui a le plus souffert, plutôt, de la guerre, génération 14. Alors, je pense sa table de mortalité à la naissance, à l'année de sa naissance, et je la compare à deux choses. La table de mortalité de l'année 1915, la plus sévère, et la table de la génération 1894 elle-même. Et vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux. La table de la génération, finalement, bon, elle nous fait descendre la courbe de survie un peu en dessous, comme l'a montré tout à l'heure François, un peu en dessous de la table de l'année 1806, donc un siècle en arrière, hein. Mais tout de même pas tant que ça. Alors que pour, si vous prenez la table de mortalité de l'année 1915, là, ce serait vraiment... Alors, zut, excusez-moi, ça saute sans que je fasse rien. Où est-ce que je suis rendu? Donc je remonte. Là, voilà. Voilà, donc imaginez l'année 1915, là, ça donne quelque chose comme si, pendant toute leur vie, une génération fictive, là, qui a commencé à vivre les conditions de l'année 1915 normalement jusqu'à 20 ans, et après, elle vivrait tout le temps dans la guerre, quoi, c'est ça. Voilà ce que ça donnerait. Voilà
ce que ça donnerait. L'année 1915, c'est ce que serait, oui, la survie d'une génération.
Si elle était tout le temps dans la guerre.
Dans
la guerre. Voilà, donc il y a un écart énorme, non seulement entre l'année 1915 et l'année 1894, mais même entre l'année 1806 et l'année 1915. Et quand on regarde là les femmes de l'autre côté, eh bien, on voit toute la différence. Parce que tout, pour les femmes, se situe entre les deux extrêmes. Là. Je perds tout le temps la flèche, je ne sais pas pourquoi. Entre les deux extrêmes, là, qui sont les deux courbes en noir, tout se situe là. Donc. Et tout ce qu'on voit, c'est simplement qu'une génération fait mieux au total que la table de mortalité de l'année de sa naissance. Voilà, c'est tout ce qu'on voit ici. On voit aussi un petit peu la différence entre la table de la mortalité de l'année 94 avec celle de l'année 1915. Mais ça, c'est justement simplement un effet du progrès sanitaire. Et l'écart entre la génération et sa propre table de naissance, c'est aussi simplement l'effet du progrès sanitaire, hein, qui pour cette génération, eh bien, est assez tardif parce que le grand progrès sanitaire, il commence à Pasteur. Donc cette génération-là, elle n'a pas bénéficié énormément des tout premiers progrès de Pasteur. Bon, alors, ensuite, la même chose pour la guerre 39-45. Et ici, on a encadré entre toujours 2010 et 1806. Et on retrouve les mêmes choses, mais quand même beaucoup moins fortes. Parce que vous voyez, l'année 1917, la pire... L'année 1917. Qu'est-ce que j'ai mis là? C'est l'année 1917. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que là, en fait, ce qu'on voit là, c'est une confusion entre les deux guerres. Parce que l'année 1917, qui est prise ici pour représenter, pour être comparée à la génération de 1917, et alors l'écart entre les deux, c'est-à-dire année et génération, là, c'est vraiment pas seulement l'effet du progrès sanitaire. C'est aussi...
mondiale, c'est en gros 600 000 morts, alors que la première, c'est 1,5 million.
Oui,
donc il y a quand même une différence d'échelle entre les deux.
Bien sûr. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est que ce genre de réflexion est perturbé par le fait qu'il y a eu deux guerres successivement à 20 ans d'intervalle. Et là, l'année 1917, ce qui l'a fait qu'elle s'écarte, ou plutôt que sa génération s'écarte de cette année, c'est que l'année 1917 pâtit de la guerre 14-18 directement. Et on voit bien chez les femmes qu'il n'y a presque pas de différence pour la survie entre l'année 1917 et l'année 1944 ici. Alors qu'il y a une différence entre la génération 1917 et l'année 1917 qui est due au progrès sanitaire de... Alors, la différence pour la courbe verte et bleue, là, c'est 1944, il y a un décrochage quand même, parce que les femmes, on l'a vu tout à l'heure, en termes de quotient de mortalité par âge, elles ont quand même beaucoup pâti de la Deuxième Guerre mondiale, hein, beaucoup plus qu'elles n'avaient pâti de la Première. Voilà. Ensuite, on peut regarder aussi des choses... toujours avec l'idée de savoir comment survivent les gens, c'est l'espérance de vie à différents âges. Hein, à chaque âge, entre 0 et 100 ans, l'espérance de vie. Alors ça, c'est une autre mesure. Et si on prend l'année 1894, là qu'on va comparer à la génération, bien sûr, là on trouve une courbe normale, hein, qui fait que l'espérance de vie... Dans un premier temps, à cette époque-là, où la mortalité infantile est forte, l'espérance de vie augmente avec l'âge, alors qu'on s'attendrait à ce qu'elle diminue, puisqu'on perd quand même, on a perdu les années qu'on a déjà vécues. Donc, l'année 94 est marquée encore par ce fait assez prégnant de la mortalité infantile très forte, qui fait que même l'espérance de vie par âge augmente avec l'âge, jusqu'à un maximum. Ici, et ensuite ça descend très 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 régulièrement avec l'âge, parce que c'est un indicateur extrêmement lissé par lui-même. Et c'est pareil chez les femmes. Hein. Voilà. Mais la génération 1894, là, elle a été vraiment très frappée par la guerre, et donc l'espérance de vie par âge fait un deuxième bond qui est pratiquement de la même hauteur que le bond dû à la mortalité infantile. Ce qui veut dire, je crois que tu avais fait la comparaison tout à l'heure d'ailleurs, c'est que la guerre a frappé cette génération 94 autant que l'avait frappé sa mortalité infantile. Mais si vous regardez maintenant l'année 1915, alors là, c'est encore pire que tout, parce que là, le deuxième bond est bien plus élevé que pour le premier. Le premier, on ne le voit pas bien parce qu'il se confond avec le graphique. Pour les femmes, ben, c'est très tranquille. Les courbes sont normales. Deuxième guerre mondiale, on retrouve les mêmes effets, mais moins fort, bien sûr, parce que la guerre a quand même fait moins de morts. Mais quand même, Et là, il y a toujours un petit bond pour la mortalité infantile, parce qu'il y a encore une mortalité infantile forte, hein, même en 1944, hein, mais en 1917, et surtout, voilà. Mais il y a aussi un deuxième, c'est pas vraiment un rebond, mais c'est un plateau qui est provoqué par, justement, la guerre de 1940-44. Voilà. Maintenant, il faut en venir à la deuxième partie. Elle sera beaucoup plus courte, rassurez-vous, parce que je ne pourrai pas vous dire ce que j'aurais aimé pouvoir vous dire, mais je ne pourrai pas. Donc, la survie des survivants. Là, c'est la grande question, c'est de savoir comment on peut mourir de manière indirecte de la guerre. Et alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais la surmortalité de guerre, hein, je dis bien la surmortalité, hein, elle peut sélectionner. Mais ça peut sélectionner dans les deux sens. Ah, voilà la grande question. Soit c'est les plus résistants qui sont sélectionnés parce qu'ils sont plus sportifs, comme disait tout à l'heure. C'est toi d'ailleurs, non? Oui. Voilà, ils sont plus aguerris. Et ils tuent les plus faibles. Donc, ceux qui restent sont plus résistants, donc ils vont peut-être avoir une meilleure survie après la guerre. Mais elle peut faire exactement le contraire, la guerre. Elle peut tuer les plus faibles, parce que les plus faibles, bah, ils vont au front comme les autres, mais ils se font tuer comme des lapins. Ah, pardon. Alors que les plus forts... Elle sélectionne les plus faibles. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Voilà. Le raisonnement est à l'envers. Vous avez tout compris. C'est très bien. Alors, deuxième chose, il y a les blessures de guerre qui peuvent affaiblir les survivants et engendrer une surmortalité tardive. Soit à bref délai, comme j'avais cru à l'avoir dans un premier temps avec cette courbe 1919, mais ce n'était pas le cas. Soit à plus long terme, on verra. Il n'y aura pas grand-chose, je vous préviens. Ou bien encore, il peut y avoir des conditions de vie qui auraient pu affecter durablement certaines générations. Certains auteurs se sont penchés plus là-dessus que sur les conséquences lointaines des blessures de guerre, par exemple, ou de la sélection. Et ça, ça pourrait intervenir pour des générations qui n'ont pas forcément l'âge de faire la guerre. Et ce qu'on a vu, ce qu'ont vu certains auteurs, peut-être, c'est que les enfants qui étaient enfants pendant la guerre ont peut-être eu plus de mal à avoir une bonne santé plus tard. Bon. Alors, comment détecter cette surmortalité tardive? Il faut faire des analyses par génération, évidemment, pour pouvoir faire ça. Mais il y a une méthode qui devrait normalement être très bonne, c'est de faire des surfaces de mortalité. Là, ce n'est pas une surface de mortalité que je vous montre, parce que l'exemple que je vais vous montrer en surface de mortalité, c'est, bon, silence, radio. Mais là, je vous montre une surface qui est une surface de nombre d'individus par âge, tout simplement dans la population française, depuis 1899 jusqu'à 1995, sur un siècle. Et là, on voit des effets de génération absolument magnifiques. Vous voyez, par exemple, cette diagonale. Alors, il faut que je vous dise comment ça marche. C'est vrai, ça. Donc, en abscisse, on a le temps. Ici, on a l'âge. Et ici, on a un indicateur qui est le nombre d'individus qui vivent dans la population française à un temps donné, à un âge donné. Et c'est la couleur qui indique l'importance du nombre.
Il faut expliquer que les diagonales, c'est des générations.
Ben c'est ce que je suis en train de faire, François.
C'est une grande découverte de démographie que chaque année, on vieillit d'un an. Donc c'est ça qui fait que vous avez une diagonale.
Bon. Si je peux parler. Donc vous avez ici très, très visible des effets de génération magnifiques. Et c'est essentiellement lié, mais pas seulement, hein, mais l'effet de génération le plus magnifique ici, c'est cette diagonale verte, ici, puis qui jaunit, parce que quand même le temps passe, mais c'est le nombre de naissances. C'est les classes creuses de la guerre 14, tout simplement. Et ici, vous avez les classes creuses, c'est moins net, hein, parce qu'il y a plusieurs, il y a la baisse de la fécondité, mais il y a aussi les classes creuses de la Deuxième Guerre, qui sont d'ailleurs assez limitées, c'est surtout cette génération 41, c'est la mienne.
Les classes creuses, ça veut dire donc qu'il y a 1,5 million d'enfants qui auraient dû naître pendant la guerre de 14 et qui ne sont pas nés.
Voilà. Mais c'est mélangé. Ce graphique, il est très net pour montrer des effets de génération, mais on voit aussi que ça, il n'y a pas que les naissances qui font les effets de génération ou qui font des effets dans ce graphique. Parce qu'il faudrait tenir compte des migrations, il faudrait tenir compte des guerres. Par exemple, il y a une grande coupure ici, c'est la guerre 14. Hein. Ici, on voit une verticale, hein, c'est la guerre. Dans un graphique comme ça, tout ce qui est en diagonale, ça exprime quelque chose qui est spécifique à des générations. Tout ce qui est en verticale, ça exprime quelque chose qui est spécifique au moment où se tient cette verticale. Alors, mon espoir, c'était que de faire le même graphique pour la mortalité, ça me permettrait de voir tout de suite s'il y a des effets de génération, c'est-à-dire des cohortes avec des mortalités tardives anormalement élevées. Eh bien, non. Parce que voilà ce que ça donne, pourtant pour les hommes. Là, c'est sur la période 1805 jusqu'à 2000. Non, c'est 1998, je crois, ici. Et puis là, c'est en diagonale parce que c'est les générations. On a fait des extrapolations pour les générations, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc on a une diagonale. Mais il ne faut pas tenir compte de cette diagonale. Ce n'est pas du tout un effet de génération, c'est juste un effet de calcul. Par contre, ce qu'on voit très bien ici, c'est des effets du moment. Vous avez les guerres de Napoléon, hein, ici, là. Vous avez la Première Guerre mondiale, énorme trace. La Deuxième Guerre mondiale, avec deux traces à peu près distinctes. Vous avez aussi la guerre de 70, ici. Vous avez ici la guerre de Crimée. Et puis, dans tout... Bon, on a aussi l'idée ici que... Mais c'est qu'à un certain âge, 20 ans et quelques, on a une surmortalité presque tout le temps, quoi. Alors ça se voit beaucoup moins parce que la mortalité devient très faible dans la période récente. Mais vous ne voyez aucune diagonale. Donc je me suis dit, voilà, il n'y a pas d'effet de génération. J'étais très déçu parce que quand j'ai fait ma thèse, je croyais en avoir vu. Alors je vais vous montrer ce que j'avais vu. Oui, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Pour les femmes, c'est pareil. Il n'y a pas plusieurs. En plus de raisons qu'il y en a. Voilà. Ce que j'avais cru voir, bon, on le voit quand même, c'est une réalité. C'est en essayant de rassembler, parce que c'est très compliqué de voir des effets à long terme de la Première Guerre mondiale quand on a une Deuxième Guerre mondiale qui vient tout perturber. Donc ce que j'avais fait à l'époque, j'avais regardé pour certaines générations typiques, la génération 1890, là, on est là, qui n'était pas très impliqué encore dans la Première Guerre mondiale, la génération qui a le plus souffert, et la génération, une génération qui vit après la Première Guerre mondiale, qui ne peut pas en avoir subi les conséquences. Et donc, j'ai arrêté ces courbes à l'endroit où ces générations arrivaient à être dans la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être même que pour la génération 1900, j'ai arrêté un peu trop tard, parce que c'est sans doute pour ça qu'elle remonte un peu là. Mais on voit quand même ici que la génération 1894-95 a peut-être eu, après la guerre, une mortalité un peu plus forte que celle de 1890, qui a moins touché par la guerre. Alors, est-ce que c'est un effet de génération ou est-ce que c'est encore un effet, parce que j'ai arrêté là? Pareil, peut-être un peu trop tard. Hein. Mais tout de même, même si je m'arrête ici, on voit une différence. Et ce qui est très intéressant, c'est que chez les femmes, on voit aucun effet de génération. Vous voyez? Parce que les générations viennent ici tout à fait dans l'ordre du progrès sanitaire. Et donc, c'est normal qu'elles soient les unes en dessous des autres. Pour ces courbes de quotient de mortalité, à ces âges adultes atteints entre les deux guerres. Bon, et j'avais fait aussi le graphique pour la deuxième partie, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les mêmes générations, après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'était presque un peu plus net, hein, quand même. Il y avait cette génération 90 qui se trouve anormalement entre les deux, 94, 95 et 1900, alors que s'il n'y avait que le progrès sanitaire, elle serait vraiment... l'une en dessous de l'autre. Et donc, on peut penser, et moi c'est ce que je pensais à l'époque, qu'il y avait quand même un petit effet de génération la génération 94 ou 95, qui avait été très durement frappée par la guerre, en termes de pertes, mais aussi sans doute en termes de blessures, en termes de gazage, tout ça, a dû souffrir. Et voilà. Pourtant, moi, j'ai mon grand-père, il a été laissé pour mort sur le champ de bataille. Mais les Allemands s'en sont très bien occupés et il avait beau être fracassé de tout le visage et avoir une balle à côté du cœur, il a vécu jusqu'à 80 ans. Donc, bon, c'est pas un très gros effet, mais il y en a peut-être un petit. Alors, je me suis dit, là, je voudrais rapporter quand même le travail d'un collègue qui s'appelle Oryushi, qui lui a travaillé sur la Première Guerre mondiale, mais en Allemagne, et il a vu, enfin il pense qu'il a vu un effet de génération, lui en faisant un rapport entre le quotient à un âge donné, le rapport au quotient à l'âge suivant, ou précédent, je ne sais plus, et tout ça pour des tables du moment, année 1959, année 1964, année 1969, année 1974, et il remarque qu'il y a quatre, c'est des quotients quinquennaux hein, d'âge, donc ces quatre quotients quinquennaux sont anormalement élevés par rapport, c'est pas des quotients, c'est des rapports de quotients, par rapport aux quatre suivants, et il y voit un effet d'affaiblissement des générations qui sont touchées par ces quotients-là, à ces années-là. Et il dit que c'est les années donc, de naissance entre 1894 et 1909. Donc c'est quand même très vague, quoi. Mais il pense que c'est plutôt les enfants qui étaient adolescents pendant la Première Guerre mondiale qui font cet effet-là. J'ai essayé de faire exactement le même graphique pour la France. On ne voit absolument rien. Donc, je ne vous montre même pas, c'est pas la peine. Par contre, je me suis dit, prenons quelque chose de plus simple que tout ça. On va regarder tout simplement, parce que s'il y a un effet à long terme, ça doit se voir dans une espérance de vie à un certain âge qui a dépassé les deux guerres, par exemple. Alors j'ai pris l'espérance de vie à 45 ans. Et voilà ce que ça donne pour les hommes. L'espérance de vie à 45 ans, son avancée dans le temps. Évidemment, tout ça, c'est le progrès sanitaire, mais il y a des petits accrochages, mais c'est quand même très petit. Hein. Voilà, ça serait ça l'effet de la Première Guerre mondiale, l'effet retardé, l'effet retardé de la Première Guerre mondiale. La génération 1894 est là. Bon, les quelques autres qui ont suivi, en ce moment. Mais c'est pas très net, hein. Pas très net. Et ici, j'ai pris la génération 1909, là c'était la dernière citée par Oryushi, on voit absolument rien, hein, tout ça. Par contre, on voit quelque chose que, au vu de ça, je n'attendais pas. On voit rien en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, c'est pas ce que ça peut être. L'espérance de vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Oui, tu me fais
ça, c'est l'effet de... Oui, c'est justement l'espérance de vie par génération. C'est pour ça que je me suis perdu. L'espérance de vie par génération, donc c'est normal. Oui. Donc ici, alors on a peut-être... On a peut-être... Oui, c'est ça. Donc peut-être... génération 1915 comparée à génération 1916, ça pourrait être le fait que la génération 1915 n'a pas été très touchée par la Deuxième Guerre mondiale, et celle-là l'a été plus. Mais c'est absolument étonnant qu'on voit une telle différence ici, alors qu'ici, avec un effet beaucoup plus massif qu'on a vu sur les courbes de mortalité avant, on aurait dû avoir un décrochage beaucoup plus énorme s'il y en avait un. Eh bien, je ne sais pas. Mais par contre, cette période-là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne sais pas. Je m'interroge. Ils ont 45 ans en 1915, à peu près. Donc, on arrive dans les années 60, là. Alors, Mais c'est quand même... Du coup, c'est trop fort comme effet. Mais dans les années 60, on a le problème qui est très généralement lié à comment marche le progrès sanitaire. Et le progrès sanitaire, jusqu'aux années 60, c'était essentiellement la baisse de la mortalité infectieuse. Et à partir de là, on a eu une petite hésitation dans la progression des espérances de vie, à la naissance, mais à tous les âges aussi. Et bon, enfin, c'est quand même un peu gros qu'en génération, ça donne ça. Donc je ne sais pas, je vous laisse sur votre faim, comme sur la mienne. Je conclue, parce que, vous voyez, c'est quand même des effets de génération, parce que je fais plusieurs âges, les femmes, ce petit truc que je ne comprends pas, ça marche aussi pour les femmes. Bon. Pourquoi ça serait peut-être quand même lié à la crise des années 60. Enfin, peu importe. Ma conclusion, c'est que les effets à long terme sont discutables. Oh, tiens, j'ai fait une belle faute de frappe là, mais certainement de peu d'importance. Et le problème, c'est qu'en effet, il y a une compensation entre toutes les possibilités d'avoir des effets à long terme, entre la fragilisation des survivants et entre les effets de sélection négatifs et positifs. Mais les effets directs sont absolument massifs. Et ils frappent de manière très différente les civils et les militaires, ainsi que le sexe masculin, le sexe féminin, et selon l'âge. Voilà, la grande différence aussi qu'on remarque ici, c'est la grande différence entre les perspectives qu'on a quand on regarde l'étape de mortalité du moment et les perspectives qu'on a quand on regarde l'étape de mortalité vraie des générations. Voilà.